Radio Okapi.
Le Conseil provincial de sécurité du Nord Kivu met en garde les militaires et les combattants des groupes armés locaux incontrôlés. C'est en rapport avec l'insécurité grandissante dans la ville de Goma. Dans sa réunion extraordinaire hier jeudi, ce conseil enjoint les responsables des unités militaires à mettre hors d'état de nuire tous ceux qui compromettent les efforts de stabilité dans la région. Les fonctionnaires et agents de l'État n'ont toujours pas perçu leur salaire du mois de mars. Le ministre des Finances évoque les dépenses liées à la sécurité qui ont exercé une forte pression sur la trésorerie de l'État durant le premier trimestre 2024. Le maire de la ville de Goma est l'invité de ce journal. Le commissaire supérieur principal de la police, Kapend Kamand Faustin, parle de l'insécurité grandissante à Goma depuis quelques semaines. Bonjour à tous. Insécurité grandissante dans la ville de Goma, le Conseil provincial de sécurité met en garde les militaires et les combattants des groupes armés locaux incontrôlés. Dans sa réunion extraordinaire hier jeudi, cette structure, présidée par le gouverneur militaire, enjoint les responsables des unités militaires à mettre hors d'état de nuire tous ceux qui compromettent les efforts de stabilité dans la région. Bernard Danyangi.
La réunion extraordinaire du Conseil provincial de sécurité intervient au lendemain d'une série de tueries et braquages causant au moins 8 morts et plus de 8 blessés mardi et mercredi dernier à Goma. Dans l'extrait du compte rendu, la sanctionna, la conseillère principale du gouverneur en charge de communication et médias revient ici sur les décisions annoncées. Prisca Luanda.
Le gouverneur de province met en garde les VDP. Les militaires en divagation, une instruction ferme a déjà été donnée aux commandants des unités de ne ménager aucun effort pour restaurer la tranquillité en mettant hors d'état de nuire tous ceux qui voudraient compromettre les efforts des FARDC engagés sur les lignes de front. Des compatriotes fusillés à l'endroit appelé André Président à Bouéné. Le conseil informe que les enquêtes sont en cours pour élucider cette question.
Le gouverneur militaire a par ailleurs qualifié de très volatile la situation sécuritaire sur l'ensemble de la province. Dans cette rencontre, le général Peter Chirimwami a déploré la réorganisation des terroristes ADF qui multiplie les tueries au nord de la province alors qu'au sud, l'activisme des 1-23 reste de plus en plus menaçant. Goma, Bernard Dengangui, Radio Okapi.
Pendant ce temps, sur les lignes de front, règne un calme précaire depuis 2 jours déjà dans le territoire de Masisi et Rutshuru. C'est après des combats mardi et mercredi, notamment aux alentours du village Chacha, groupement de Mufunishanga, territoire de Masisi, où les 10 combats avaient opposé des groupes armés locaux aux rebelles du 1-23, précisément autour des collines de Ndumba et Muremure. D'autres combats ont opposé mardi les mêmes forces autour du village Bihambwe, dans le même territoire. Nos sources ne mentionnent aucune avancée des 2 forces belligérantes. Les rebelles sont toujours autour de Sake, Chacha, voire sur les autres positions dans le territoire de Rutshuru, alors que les FARDC et groupes armés locaux occupent leur même position. En Ituri, 7 corps sans vie des civils tués la semaine dernière par les ADF dans le village Banzu-Banzu ont été découverts hier jeudi dans la chefferie des Babi Labakwanza dans le territoire de Mambasa. Selon les témoignages d'une femme rescapée recueillie par la société civile, 10 de personnes ont été tuées et plusieurs biens pillés par ces rebelles au cours de cette attaque. Les activistes de droits de l'homme demandent aux services de sécurité de faciliter l'accès à cette zone pour récupérer les corps des victimes. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis le 5 avril dernier que ces civils, tous des agriculteurs, ont été pris en otage par les rebelles ADF et leurs supplétifs dans leurs champs dans 2 villages Banzu-Banzu et Apetineko à 5 heures de marche au sud-est de Mayuano dans le territoire de Mambasa. Selon des sources locales, ces civils, dont 2 femmes, étaient tous liés par une corde en direction de la forêt et d'autres transportés des butins de guerre. Une dame a réussi à s'échapper avec son bébé des mains de ces rebelles qui ont tué d'autres otages. La société civile avance un bilan de 7 personnes tuées à l'armée blanche dont les dépouilles gisent encore au sol depuis maintenant 4 jours. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH signale que cette zone reste encore inaccessible à cause de la présence de ces rebelles qui troublent la quiétude des agriculteurs. Contacter l'administrateur du territoire de Mambasa ne confirmait pas encore cette information. Il ajoute que l'armée poursuit toujours les opérations pour démanteler cette force négative dans la zone. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, l'un de deux prisonniers qui s'était évadé dans la nuit du 24 au 25 mars de la prison centrale de Kindu a été rattrapé par les services de sécurité. Il est l'un des présumés auteurs du meurtre de maître Dido Kankisingi à l'arrivée de Moïse Katumbi lors de la campagne électorale l'année dernière. Olembo Kipala a été remis en prison en attendant son jugement. L'avocat conseil de la famille de la victime salue le travail abattu par les services de sécurité et dénonce en même temps les manœuvres visant selon lui à vouloir amener ce prisonnier en dehors de la province pour se faire soigner. Maître Jacques Ngongo explique au micro de Florence Kizalunga.
La famille est en train de remercier les services de sécurité qui ont fait un travail de titan en récupérant M. Olembo qui avait fui la prison centrale de Kindu. Et en fuyant, ce dernier s'est fracturé la jambe droite ainsi que la jambe gauche a été touchée au niveau des genoux parce qu'il avait escaladé les murs. Vraiment une satisfaction par rapport à nos services qui font vraiment un bon boulot pour traquer tous les malfaiteurs qui ont commis le meurtre sur Maître Dido. Et notre inquiétude est que aujourd'hui, on apprend qu'il y a des manœuvres frauduleuses qui s'organisent pour que M. Olembo soit soigné en dehors de la province. Ça, nous considérons comme une manière de chercher à le faire évader à nouveau. Lorsqu'il était dans sa cachette, il n'avait pas pensé sur son transfert. Mais lorsque le service a mis la main sur lui, c'est maintenant que tout le monde pense sur son transfert afin qu'il puisse bénéficier des soins. Alors qu'à Kindu, nous avons des médecins spécialistes et donc nous pensons que M. Olembo sera soigné à Kindu. Surtout que son dossier est fixé au tribunal et qu'il est obligé de se présenter à tout moment devant le juge.
Le salaire du mois de mars des fonctionnaires et agents de l'État n'est pas encore payé à ce jour et ce n'est pas la première fois qu'un retard est constaté dans la paie des agents de l'administration publique depuis le début de cette année. Le ministre des Finances évoque les dépenses liées à la sécurité qui ont exercé une forte pression sur la trésorerie de l'État durant le premier trimestre 2024. Le point avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Pour ce mois de mars 2024, la paie a été programmée par séquence. D'abord les militaires, les policiers et enseignants, le reste des agents publics attendra la semaine du 15 avril. Nicolas Kazadi, ministre des Finances.
Le premier trimestre, c'est le trimestre le plus difficile de l'année sur le plan de la trésorerie. Et nous avons, nous, en plus connu des dépenses sécuritaires exceptionnelles en janvier et février. C'est cela qui a fait qu'il y a un glissement dans la paie des salaires.
Pour l'EMS, Camonia économiste, la problématique de la régularité de la paie est une question qui relève d'une bonne gestion des finances publiques.
Vous devez regarder les autres dépenses de fonctionnement qui ne sont pas importantes et essayer de les réduire. C'est toujours dans ces cadres-là, par exemple, qu'on dit il faut réduire les trains de fonctionnement de l'État. Par exemple, on s'est dit on peut suspendre certaines missions de service, on ne fait que des missions qui sont vraiment importantes. On peut aussi geler certaines dépenses d'investissement ou les reporter carrément dès lors qu'on sait qu'elles n'ont pas une incidence directe sur la croissance ou la vie des populations.
Il y a donc un ordre de priorité à établir sur quelles dépenses doivent être financées, gelées ou reportées, souligne l'EMS Camonia.
La Grande-Bretagne est désormais disposée à recevoir les produits congolais moyennant le respect d'une certaine réglementation. C'est l'une des résolutions issues du Forum économique RDC Royaume-Uni qui s'est clôturé ce jeudi ici à Kinshasa. Information annoncée à la presse par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, en marge de la cérémonie de clôture présidée par son collègue du commerce extérieur. Les détails avec Grace Hamzati.
Julien Paluku souligne que les entreprises britanniques présentes à ces assises ont pris l'engagement d'investir en RDC.
La Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni est disposée à pouvoir recevoir les produits made in Congo sur le sol britannique, moyennant bien sûr le respect d'une certaine réglementation. Et donc ça c'est la première grande victoire que le Forum économique UK-RDC vient d'obtenir. La deuxième victoire c'est que la série d'entreprises, au total 26 entreprises qui sont présentes à Kinshasa, sont disposées à pouvoir intégrer l'environnement économique congolais parce que nous avons pu explorer bien évidemment les cadre juridique, mais aussi un ensemble d'avantages incitatifs qui peuvent permettre à ce que, lorsqu'on s'installe dans ces pays, qu'on devienne beaucoup plus compétitif que lorsqu'on s'installe d'ailleurs.
Pour sa part, Lord Popat, envoyé commercial du Premier ministre britannique, les entreprises britanniques vont s'investir pour le développement de la RDC.
Votre prospérité sera aussi notre prospérité, donc c'est gagnant-gagnant. La RDC a pas mal de potentiel, ce n'est pas seulement dans les mines, mais dans l'agriculture et dans d'autres secteurs. Nous pouvons travailler ensemble pour le développement de la RDC.
Outre les 26 chefs d'entreprise britanniques, ces assises ont également connu la participation de la FEC et des mandataires des entreprises.
La société Transco a 10 nouveaux bus de marque Mercedes. Ils sortent tout droit des ateliers de montage de l'entreprise Suprême Automobile installée dans la capitale congolaise. C'est le ministre de Transport qui a remis officiellement ces bus ce jeudi à Kinshasa. Ce deuxième lot porte à 31 le nombre de véhicules reçus jusque-là par Transco de la part de cette entreprise sur les 230 attendus selon le DG de Transco. Un reportage de Marie-France Munguindo.
Cette remise intervient dans le cadre d'un projet du gouvernement congolais en partenariat avec la société Suprême Automobile. Au final, Transco devra être doté des 230 bus, explique Cyprien Béré, directeur général de Transco.
Dans le cadre de ce partenariat, il est question que Suprême Automobile livre à Transco 230 bus.
Ce lot de bus, s'il est réceptionné mensuellement comme prévu au départ, va permettre d'améliorer les conditions de déplacement de la population. Marc Kila, ministre de Transport.
Recevoir 10 à 12 bus mensuellement, cela peut nous permettre de transporter dans de très bonnes conditions non seulement les Kino, mais les autres populations qui sont à l'intérieur du pays. Le gouvernement assurera toujours ses responsabilités en ce qui concerne l'approvisionnement des Transco en carburant.
Certains Kinois qui ont assisté à la remise de bus à la place royale à la Gombe se sont réjouis de cet appui qui, espèrent-ils, va aider à réduire tant soit peu les difficultés des transports.
Nous nous réjouissons de cette dotation. Nous sommes fiers de Transco. Transco transporte la population pratiquement gratuitement. 500 francs. S'il faut prendre le privé, le 207, le taxi, on est au-delà de 3000 francs pour une course.
Ils appellent les gouvernements à soutenir Transco pour lui permettre de transporter la population dans de bonnes conditions et à moindre coût.
Situation confuse à l'Assemblée provinciale du Kwilu. Faut-il organiser les élections du bureau définitif sans attendre les élections législatives à Massimanimba? Aucun calendrier ni date n'est communiqué par le bureau provisoire pour ces élections. La Chambre est confrontée à plusieurs calendriers, notamment pour l'organisation des élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et des sénateurs, à des délais très serrés. Interrogé sur la question, le président du bureau provisoire dit mener des démarches pour obtenir des orientations de la part du pouvoir central. Professeur Oscar Onsaman le dit à Irène Mbomaluzolo.
Je crois qu'il y a un problème réel. Je cherche plutôt à trouver une solution à ce sujet. C'est pourquoi j'ai dit que je me référais à la hiérarchie pour essayer de poser la question sur l'orientation à prendre. Étant donné qu'il y a des communiqués contradictoires et diversifiés sur les calendriers, là, il n'y a pas encore de difficultés comme telles. Mais on est en train d'envisager un IIA. Des communiqués de la CENI qui annoncent d'un côté les élections des sénateurs, de l'autre les élections de gouverneurs, de vice-gouverneurs à des dates différentes. Il y a aussi l'élection des bureaux définitifs qui doit intervenir. Alors les délais là portent un hic. Il y a aussi le problème des Mazi. Faudra-t-il aller droit vers l'élection des bureaux définitifs avant les Mazi ou après les Mazi? Tout ça, ça fait partie des problèmes délicats et je crois qu'il faut nécessairement avoir un éclairage.
Actualité internationale.
La police éthiopienne a annoncé avoir arrêté 13 personnes soupçonnées d'être impliquées dans le meurtre dans la nuit de mardi à mercredi d'un influent opposant éthiopien. Bat Urgesa, 41 ans, dirigeant du Front des Libérations Oromo, OLF, parti d'opposition légalement enregistré, a été retrouvé mort mercredi matin, tué par balle à Meki, localité située à environ 150 km au sud de la capitale Addis Abeba. Le porte-parole de son parti, Lemi Gemeshu, avait précisé que M. Bat avait été arrêté mardi soir dans un hôtel par des membres des forces gouvernementales. Aucun détail n'a été fourni sur l'identité des suspects arrêtés.
L'invité.
L'invité de ce journal, c'est le commissaire supérieur principal de la police, Capend Kamand Faustin, maire de la ville de Goma au Nord Kivu. Vous le savez, il y a regain d'insécurité depuis quelques semaines à Goma. Une insécurité caractérisée par des braquages et des tueries perpétrées par des hommes armés. Qu'est-ce qui est à la base de cette recrudescence de l'insécurité et quelles solutions pour éradiquer ce phénomène? Le maire de Goma répond à ces questions dans un entretien accordé à Bernardine Diambo.
Monsieur le maire de la ville, bonjour.
Bonjour, madame.
Oui, monsieur le maire, votre entité est vraiment menacée par l'insécurité qui est devenue récurrente ici dans la ville de Goma. Selon vous, en tant que numéro un de la ville, qu'est-ce qui serait vraiment à la base de cette recrudescence de l'insécurité?
D'une part, le banditisme, le mouvement des armes, nous sommes dans une zone opérationnelle. Tous les déplacés de guerre, ils ne sont pas sains. Il y a les militaires déserteurs de front que nous avons eu l'honneur de vous présenter parce que nous ne sommes pas là pour cautionner l'impunité. Vous avez vu leurs armes, ils se sont engagés dans les faits inciviques, avérés, raison pour laquelle nous les avons arrêtés. Voilà une des grandes sources d'insécurité, d'une part les déserteurs, d'autre part l'infiltration de certains ennemis dans la ville. Et nous avons eu l'occasion de neutraliser quelques bandes.
Vous avez présenté devant la presse les présumés bandits armés qui insécurisent la ville de Goma. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de cette opération ou cette activité d'aujourd'hui?
Les opérations de bouclage ciblé, de perquisition par rapport à l'insécurité classique dans la ville, le banditisme armé, nous continuons au quotidien à sécuriser cette population. C'est ici l'occasion de rassurer notre population qu'elle ne sera jamais abandonnée. Raison pour laquelle l'événement d'avant-hier dans le quartier Majengo et celui d'hier à l'entrée du président, les services de sécurité et d'ordre ont réagi spontanément. C'est pour vous dire que les présumés auteurs de l'assassinat dans un bistrot de Majengo et l'événement d'hier, le braquage, les présumés auteurs sont déjà entre nos mains et leurs armes. Mm-hmm. En passant, nous avons eu l'occasion de présenter aussi les différentes bandes qui ont opéré et insécurisé la ville pendant deux semaines passées. Il s'agit notamment de la bande de 6 militaires et 2 Ouazalendo qui ont fait l'extorsion, le braquage, leurs armes eux-mêmes neutralisées. Il s'agit aussi d'une bande de motards qui opèrent dans la zone occupée par l'ennemi, qui viennent de Bunagana, qui viennent de Kiwanja, qui viennent de Rutshuru Centre. Et ils se cachent dans les maisons de tolérance dans la banlieue de la ville de Goma. Maîtrisés aussi, sans identité, c'est à eux de nous dire quel type de marchandises qu'ils amènent, quels sont ces hommes qui transportent, pour faire quoi. Alors ça, c'est les enquêteurs qui vont faire ce travail et la justice pourra nous rendre le dernier verdict.
De plus en plus, vous présentez les présumés bandits devant la presse, mais l'insécurité persiste toujours. Selon vous, quelle solution pour essayer d'éradiquer cette insécurité?
L'insécurité, c'est un fait social. Même aux États-Unis, à Washington, à Djobour, en Afrique du Sud, l'insécurité est toujours là. Parce que le comportement humain se dégrade selon l'environnement, selon les motivations et consorts. Voilà, et nous vivons avec, parce qu'on est humain, mais nous n'allons pas lasser les bras, nous n'allons pas nous fatiguer pour les traquer. Raison pour laquelle la police, l'armée et tous les autres services de sécurité doivent maintenir leur sens d'être.
Quel est le message que vous pouvez lancer auprès de la population qui vit la peur au ventre?
La ruse de l'ennemi, c'est aussi créer la méfiance entre la population et ses forces armées ou sa police ou d'autres services de sécurité pour les amadouer. C'est pourquoi ils créent la terreur. Ils opèrent avec le système de terrorisme avéré. Voilà. Nous demandons à notre population de dénoncer lorsqu'il y a soupçon d'une cachette d'armes ou encore présence des inciviques dans n'importe quel coin de la ville. Nous demandons à cette même population qui se plaint d'observer seulement les strictes mesures telles qu'arrêtées et avec l'effet d'accompagnement du comité provincial de sécurité.
Monsieur le maire de la ville de Goma, Radio Capu vous remercie.
Vous êtes aussi parmi les éducateurs de la masse ou de la population. Que la population ne cède pas à l'intox et à la manipulation stérile. Je vous remercie.
Voilà, c'est la fin de ce journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi. Alain Goya a assuré sa mise en onde dans une coordination des gens Désiré Kanyama et sous la supervision de Jacques-Yves Molima. Le prochain point de l'actualité sur Radio Capu, ça sera à 13h, heure de Kinshasa.